mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 7 novembre 2024. On va s'éviter le sujet retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, puisqu'il y aura beaucoup à en dire, je pense, dans les mois et années à venir. Les réactions, tout ça, on laisse les spécialistes s'en occuper, puis on attend de voir un petit peu ce qui se passera et toutes les répercussions que ça aura mondialement. On va quand même parler de réchauffement climatique encore un petit peu, avec des inondations du côté de la bande sahélienne en Afrique, des questions, des problèmes d'assurance et des dégâts causés justement par les catastrophes climatiques en France. Une petite histoire qui pourrait sembler risible si elle n'était pas triste, de procès pour avoir partagé une vidéo satirique, une chanson qui s'en prenait à Gérald Darmanin, c'était il y a 2 ans, mais la personne passe en procès un de ces jours. Et puis avant tout cela, on va parler de harcèlement, de cyberharcèlement notamment, puisque c'est la journée nationale contre le harcèlement en France, donc pas mal de choses se font de ce côté-là. On va essayer de prendre un petit moment pour en parler. Et oui, vous le savez quand même sûrement, un nombre important d'enfants et d'adolescents à travers le monde sont confrontés à la violence et à l'école et au harcèlement, y compris donc maintenant le cyberharcèlement, c'est-à-dire le harcèlement via les réseaux sociaux, donc en ligne, ce qui peut nuire et ce qui nuit à leur santé, à leur bien-être et à leur éducation. C'est pourquoi cette journée, donc le premier jeudi de novembre, a été déclarée par les États membres de l'UNESCO comme la journée internationale contre la violence et le harcèlement à l'école, y compris donc le cyberharcèlement. Cela marquant donc la reconnaissance par l'institution internationale que la violence scolaire sous toutes ses formes constitue une violation des droits à l'éducation, à la santé et au bien-être des enfants et des adolescents. C'est une journée pour essayer de sensibiliser et d'appeler donc les apprenants, les parents, les membres des communautés éducatives, les autorités éducatives et divers secteurs et partenaires, hein, y compris l'industrie technologique. Eh bien, tous sont donc invités à participer à la prévention de toutes les formes de violence et à favoriser des environnements d'apprentissage sûrs, essentiels à la santé, au bien-être et à l'apprentissage des enfants et des jeunes. Cette année, en plus, sa commémoration coïncide avec l'ouverture de la première conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence contre les enfants. Elle se tient à Bogota, en Colombie, ces 7 et 8 novembre. Et si on revient à la France, les chiffres sont assez éloquents, puisqu'un jeune sur 6 en France donc est victime de cyberharcèlement, et 24% des familles y sont donc confrontées. On va commencer cette petite discussion justement avec un sujet que j'ai trouvé sur le média en ligne The Conversation, qui s'intéresse un peu aux ressorts psychologiques et technologiques de ce harcèlement, pour essayer de comprendre un peu mieux. Peut-être notamment certains réseaux sociaux, pour certains parents ou adultes, c'est encore un peu obscur ce qui peut s'y passer. Donc, c'est un article qui commence par décrypter cette course à la popularité, hein, qui est inhérente justement au fonctionnement des réseaux sociaux et qui conduit parfois les jeunes utilisateurs à prendre des risques qui peuvent nourrir différentes formes de cyberharcèlement par la suite. Et ces plateformes numériques, ces applications, possèdent justement des fonctionnalités qui incitent les usagers à partager toujours plus de contenu ou à réagir aux publications d'autres internautes. Et toutes ces actions, tous ces likes et tous ces partages laissent des traces dans l'algorithme, hein, des datas. Ces traces vont participer à la construction de l'identité numérique des individus. Et ces traces sont transformées donc en indicateurs visibles de popularité ou on peut appeler ça de capital amical. Donc en gros, si on est invisible sur les réseaux sociaux, c'est quelque part, ça peut être vécu comme une invisibilisation sociale complète. Ces fonctionnalités, en tout cas des plateformes, incitent donc les utilisateurs à mettre en place des tactiques pour gagner en audience et en sociabilité. Et tout cela peut se retourner contre eux et nourrir du cyberharcèlement qui va prendre racine sur des discriminations sexistes, raciales ou homophobes qui traversent la société encore en masse. Dans cette logique, souvent, eh bien, ce sont des contenus qui échappent à leur premier auteur et qui vont ensuite se diffuser de manière virale, ce qui peut provoquer le lynchage médiatique d'une personne, indépendamment des intentions initiales de la publication, voire même des fois à contrario de ce qu'elle disait. Et ainsi, des applications aujourd'hui sont développées pour contourner les garde-fous de certaines plateformes, parce qu'il y a quand même théoriquement des règles qui limitent ça, mais bah, évidemment, la technologie avance toujours et les malins trouvent d'autres utilisations. Donc on peut par exemple faire des captures de données qui sont censées être éphémères. Et alors ça va laisser une trace susceptible de ressortir à tout moment et d'être récupérée ensuite à des fins malveillantes. L'article s'intéresse maintenant justement à Snapchat et aux coulisses de cette application. Snapchat, c'est un réseau très prisé par les adolescents et qui justement est fondé sur cette notion d'immédiateté et théoriquement de disparition des données. Alors je vous l'ai dit, l'identité numérique se construit à partir des traces que les usagers des plateformes laissent derrière eux, mais aussi en fonction de la finalité des traces et de ce qu'ils ont choisi. C'est ainsi que les chercheurs, en tout cas ceux qui s'intéressent à ces domaines, ont un petit peu décortiqué la question en trois sous-groupes, on va dire trois différentes manières de représenter cette identité numérique, donc trois dimensions. Ils appellent tout d'abord l'identité déclarative, c'est-à-dire ce qu'on va dire de nous ou des autres à travers les publications, souvent du texte. Il y a aussi la dimension agissante, donc toutes les traces que les publications vont laisser et qui vont ensuite, par exemple, réapparaître sous forme de notification dans le réseau. Quand vous likez quelque chose, les autres peuvent voir que vous avez liké, etc. Et enfin, il y a la dimension calculée, donc vraiment le chiffre, le nombre d'amis ou de likes. La dimension chiffrée, justement, constitue des marqueurs de réputation qui sont intégrés aux interfaces des plateformes. Et c'est un petit peu... C'est une manière de savoir un peu ce que la communauté pense de nous, donc une synthèse des jugements. Et ça fonctionne un peu souvent comme un indicateur de popularité, c'est-à-dire la capacité de se faire apprécier du plus grand nombre, qui est notamment chez les adolescents souvent une question existentielle. Donc si on revient à Snapchat, la plateforme Snapchat, qui est utilisée quand même régulièrement par 37% des moins de 13 ans sur cette année et 80% des 16-25 sur 2023, eh bien, il y a plein de petites fonctionnalités ludiques qui matérialisent la dimension calculée. Par exemple, les snap flammes, les fameuses flammes que les jeunes recherchent sans arrêt, eh bien, c'est une manière de compter le nombre de jours d'échanges réciproques et sans interruption entre deux personnes. Il y a les charmes qui récompensent des interactions spécifiques et les emojis d'amis, eux, distinguent des interactions les plus régulières. Ouais, et c'est pas précisé dans cette publication qui s'intéresse vraiment au harcèlement, mais la dimension addictive des plateformes est vraiment très très fortement liée justement à toutes ces petites notifications, ces récompenses qu'on a quand on agit sur les réseaux sociaux, de voir que les gens likent ou aiment ou repartagent ou commentent. Et ben ça stimule les petits circuits de récompenses, de la dopamine, tout comme quand on se drogue. Le cyberharcèlement donc s'appuie sur ces trois dimensions de l'identité, je viens de vous les dire, déclarative, calculée et agissante. Et va se nourrir des fonctionnalités justement que chaque plateforme a de son côté, puisque chaque application, chaque plateforme est quand même différente. C'est ça qui fait que tel ou tel est d'ailleurs plus prisé des adolescents ou des adultes, et inversement. Par exemple, si on insulte quelqu'un ou des rumeurs sur quelqu'un, ça c'est du déclaratif. Mais une fois qu'elles sont publiées, ces petites remarques, ça peut être dans un groupe de discussion privé par exemple, elles échappent à leur auteur. Elles peuvent être par exemple partagées et conservées grâce à des captures d'écran, et laisser donc des traces qui vont peut-être pouvoir ressurgir des mois, voire des années plus tard. Vous savez, c'est un peu comme quand il y a des nouveaux ministres élus et qu'ils essayent d'effacer tout ce qu'ils ont fait dans le passé parce qu'ils trouvent que ça fait un peu tâche par rapport à leur fonction régalienne maintenant. La diffusion des contenus compromettants peut être motivée. Qui donc partage ça? Justement, peut-être pour attirer l'attention sur soi. Souvent, malheureusement, les personnes qui harcèlent les autres sont aussi en quête d'une certaine reconnaissance. Par exemple, en faisant rire les autres ou en gagnant en popularité ainsi, en se moquant de quelqu'un. C'est une petite course à l'audience qui renvoie justement à la dimension des chiffres, la dimension calculée de l'identité. Et tout ça va aussi participer à la création d'un capital amical, puisque quand on fait des fois du harcèlement, au début, on le prend pas mal et on reçoit soi-même plein d'interactions et de likes. Donc ça stimule, ça motive à continuer. ce qui du coup ne permet pas de se rendre compte du caractère très, très dangereux, voire méchant, de ce qu'on partage. Snapchat, c'est une appli donc qui se distingue par des échanges éphémères qui sont centrés sur l'image et qui modifient la manière dont les jeunes construisent leur identité numérique. Il y a l'identité figurative qui est mise en scène dans des photos ou des vidéos qui prend le pas un petit peu sur le côté déclaratif, que ça soit du texte ou des discours qu'on pourrait dire. C'est pas des vidéos où on parle trop, c'est vachement l'image qui est mise en avant. C'est plutôt conçu à la base pour des conversations privées entre amis proches. Mais ce réseau fantôme, où la plupart justement des données sont privées, est aussi détourné par les jeunes usagers qui cherchent à y faire des rencontres pour promouvoir donc ce qu'on appelait l'identité calculée. Par défaut, normalement, quand on envoie quelque chose sur l'appli Snapchat, eh bien, les contenus disparaissent une fois que la personne l'a lu et on voit si la personne a fait une capture d'écran. Il y a des notifications pour les captures d'écran de la personne à qui on l'a envoyé. Sont des garanties d'ailleurs, on se dit « ah bah c'est transparent, je sais s'il l'a pris ou pas ». Tout cela peut encourager donc les jeunes usagers à partager plus qu'ils ne le feraient sur une autre plateforme ou qui garderaient des traces ou alors face à face avec quelqu'un. Parce que quand on parle à quelqu'un, et bah, y a d'autres personnes autour, des témoins. Et si on fait par exemple des choses sur un truc de vieux comme Facebook, bah, les autres personnes peuvent voir ce qu'on partage. Donc on réfléchit des fois deux fois avant de diffuser des choses. Le cyberpsychologue, ouais, ça existe, John Suler, parle à cet endroit d'un effet de désinhibition qui reste souvent assez léger quand il favorise par exemple des échanges sincères et intimes. C'est aussi pour ça que l'appli Snapchat plaît aux jeunes. Mais ça peut s'avérer toxique quand il provoque des comportements malveillants. Déjà, eh bien, la question de l'évanescence et de l'immédiateté de ces publications, eh bien, elle peut être contournée avec d'autres petites applis ou des astuces qui permettent eh bien, de faire des captures d'écran à l'insu de l'interlocuteur. Et ces captures d'écran peuvent ensuite être conservées dans des dossiers, puis ressorties à tout moment pour faire des réputations, lancer des rumeurs contre des rivaux ou souvent aussi d'anciennes relations amicales ou amoureuses, une manière de se venger a posteriori. Dans les cas extrêmes, d'ailleurs, ces données volées, puisque c'est du vol, peuvent faire l'objet de chantage pour obtenir des faveurs sexuelles. Ça, c'est le mot « sextorsion » qui a été inventé pour parler de ça. Ou alimenter des comptes ficha, c'est-à-dire pour aller essayer d'extorquer sous une fausse identité d'autres personnes, mais aussi provoquer le lynchage d'une personne et inciter l'audience à en faire de même. Si, par exemple, ces données volées sont diffusées dans le chat, donc le groupe de discussion, qui peut réunir quand même jusqu'à 200 une personne sur Snapchat, eh bien les contenus privés ensuite échappent à toute modération, puisque ce sont des discussions privées, mais je vous le disais, avec un groupe de 200 personnes, ça peut vite partir en effet boule de neige. Alors les flammes, les charmes et les emojis d'amis donc récompensent les conversations régulières. Ils exercent aussi une pression à la performance sociale, notamment les flammes. Hein. Moi j'ai connu des jeunes qui étaient complètement accros à ça et qui étaient vraiment en angoisse de perdre des flammes. Parce que ce sont aussi une manière donc, de comptabiliser les échanges quotidiens ininterrompus. Ça incite à dire pas grand-chose, hein, ce qu'on appelle les échanges fatigues, donc des fois juste de la fausse discussion pour garder la flamme. Des captures d'écran vides, par exemple, dans le seul but d'entretenir la flamme. Et ça peut même provoquer des ruptures relationnelles. Par exemple, quand le message n'a pas pu être envoyé à temps pour sauver la flamme. Il y a des parents comme ça qui se retrouvent, quand les enfants partent en voyage, par exemple, à devoir garder la flamme de leur enfant comme si c'était un Tamagotchi. Les plus anciens se rappellent. D'ailleurs, pour prévenir les oublis ou les pannes de téléphone, les jeunes usagers, pour rester donc dans le jeu sur Snapchat, souvent s'échangent leurs mots de passe, ce qui expose évidemment leurs données personnelles à l'instabilité des relations adolescentes et les petits coups de travers qu'on peut subir suite à ça. Les usurpations d'identité sont donc facilitées, dans la mesure où en plus Snapchat permet aux utilisateurs de créer autant de comptes que d'adresses mail, avec simplement une déclaration de nom, prénom et date de naissance. Voilà les parents, j'espère que vous suivez et que ça ne vous inquiète pas trop. En tout cas, voilà, afin de lutter contre la cyberviolence et le cyberharcèlement, dont elle est un petit peu une arène principale, et ben la plateforme Snapchat a pris des dispositions hein, pour notamment faciliter, optimiser le retrait de certains contenus ou la suspension de comptes problématiques ou bien accélérer les procédures de signalement. Ces procédures de signalement, d'ailleurs, il faut le noter, sont assez bien connues aujourd'hui des adolescents qui sont de plus en plus nombreux à signaler régulièrement des contenus qu'ils vont juger choquants, haineux ou suspicieux. Cependant, fini l'article, ça serait une illusion de croire qu'on peut amener les élèves à une parfaite maîtrise du numérique, dont certaines strates se soustraient obstinément au décodage critique, notamment quand on analyse et qu'on décortique l'aspect complètement addictif et qui a été calculé pour et travaillé par des ingénieurs, de la manière dont on interagit avec ces petits écrans. L'enjeu, finit l'article, résiderait plutôt dans l'acquisition d'une culture numérique critique, notamment en prenant conscience du rôle joué par toutes ces fonctionnalités de plateforme dans la mise en scène et l'instrumentalisation de l'identité numérique des individus, avec au final, il faut rappeler, uniquement des gains commerciaux, puisque de la donnée, ça reste de la donnée pour le secteur d'Internet. Ils s'en fichent un petit peu de vos relations intimes. Et moi, je peux témoigner de mes propres yeux. J'ai rencontré des jeunes qui arrivaient à refuser les réseaux sociaux. Ils étaient revenus à des smartphones, enfin des téléphones de papa, des dumbphones, comme on appelle ça. Si, ça existe, je vous jure. Et donc, ça laisse quand même un petit peu de l'espoir. Justement, on continue dans la veine de la journée contre le cyberharcèlement avec cette info que j'ai dénichée sur les médias de la région Occitanie. J'ai appris que le 15 octobre dernier avait été lancée l'expérimentation d'une application qui s'appelle Safe Bear, comme l'ours sûr, dans 13 lycées d'Occitanie, donc un par département. Et c'est une appli qui est normalement payante. Et justement, la région a payé 1000 licences pour tester et demander à des jeunes de l'expérimenter. Donc l'appli, elle est française, elle s'appelle SafeBR. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'elle est censée repérer justement plusieurs formes de harcèlement en ligne. C'est un petit sujet que j'ai pioché sur la radio de nos camarades de Totem du côté de Rodez en Aveyron. Donc safe, ça veut dire en sécurité, et bear, comme un ours, un animal câlin et surtout protecteur. Ça, c'était les intentions des créateurs de cette application, pardon. Donc si vous traînez souvent sur Snapchat, Twitter ou Instagram, vous devez recevoir des notifs, des alertes, des messages, parfois très violents, voire même racistes, sexistes ou homophobes. Alors par réflexe, les gens qui sont victimes de ça prennent une capture d'écran, mais ça ne sera pas toujours une preuve suffisante pour la justice, puisqu'une capture d'écran peut être manipulée et modifiée très facilement. Et c'est donc un des créateurs, Jérémy Guillon, qui s'est partant de ce constat, a eu l'idée de créer SafeBear, qui apporte selon lui plus de garanties. Il explique que l'appli va détecter un contenu problématique, par exemple du dénigrement, de l'obscénité ou de la menace. Et ce message va être repris intégralement, sans interaction humaine, donc sans la capture d'écran. Et surtout, c'est une appli qui va le certifier. Et ainsi, l'utilisateur va pouvoir utiliser donc cette preuve auprès d'un opérateur de police judiciaire ou avec un avocat pour avoir donc une vraie preuve opposable sur des cas de cyberharcèlement. Plus précisément, les messages problématiques vont être classés en catégories et un tableau de bord centralise l'ensemble des signalements relevés par SafeBear. C'est comme un antivirus un petit peu qui tournerait en fond sur votre ordi et qui bloque des menaces mais auxquelles vous pouvez accéder justement. Donc en un clic, l'utilisateur de l'appli peut constituer un dossier de preuve s'il le souhaite. Cette appli devrait peut-être donc faciliter le travail de la justice et offrir des recours aux victimes de cyberharcèlement. Depuis le lancement de cette appli en septembre, l'application a par exemple déjà aidé deux influenceurs français à mener des actions en justice, justement parce qu'ils étaient victimes de cyberharcèlement. L'application fonctionne avec un système d'abonnement, c'est 4€ par mois, et elle fonctionne pour le moment sur Snapchat, Twitter et Instagram, et possiblement bientôt, et ça c'est très important, avec TikTok et WhatsApp. À partir donc de la mi-décembre, ce sont 1000 lycéens de la région Occitanie qui vont pouvoir tester cette application gratuitement. Puisque je vous le disais, ça va être financé par la région. 13 lycées, donc un par département, vont participer à l'expérimentation. Pour l'instant, donc, c'est à Nîmes, donc pour le Gard, le lycée Albert Camus qui a été choisi. Et du côté de l'Hérault, c'est le lycée de Latte, lycée public de Latte. Les élèves volontaires ont donc désormais jusqu'à la mi-novembre pour s'inscrire sur la plateforme de SafeBear et avoir leur code d'activation pour l'appli au moment où elle sera effectivement lancée. Voilà, on quitte un petit peu le domaine du cyberharcèlement pour aujourd'hui. Je le rappelle, c'est la journée nationale. On aura aussi un jeune ambassadeur qui va venir s'exprimer sur les ondes de l'antenne la semaine prochaine. On passe à la suite des nouvelles du monde, mais on fait quand même des liens avec cette petite brève que j'ai piochée sur le journal Reporter. Reporter, donc, sur le journal de l'écologie. Et il s'intéresse justement à la consommation électrique du secteur numérique. Eh bien, on y apprend que le numérique représente 10% de la consommation d'électricité en France et que son empreinte carbone pourrait tripler d'ici 2050, notamment avec la généralisation de l'intelligence artificielle et la multiplication des data centers. Et enfin, l'augmentation significative du nombre d'appareils et d'équipements numériques que chaque ménage français possède. Cette croissance, rappelle la brève, est incompatible avec les engagements pris lors de l'accord de Paris. C'est notamment l'ADEME qui s'en inquiète, mais aussi l'ARCOM et l'ARCEP. Les directeurs de ces organismes appellent ainsi dans une tribune qui a été publiée dans Les Échos. Ils demandent un pilotage européen des impacts environnementaux du numérique. Deux rapports de l'ADEME, donc c'est l'Agence de la transition écologique, viennent d'être publiés. Hein. Le premier concerne les data centers, c'est les centres où sont stockées les données. Hein, donc toutes les vidéos, les photos, tous ces trucs hyper importants qu'on partage en masse, et ben ça, c'est pas juste de l'air, c'est pas dans le cloud, hein, c'est dans des bons gros entrepôts, plein d'ordi qui chauffent. Les consommations de ces data centers représentent 16% de l'empreinte carbone du numérique. Donc plus que 16% d'empreinte carbone et 10% de consommation d'électricité, je vous redonne les chiffres. Et cela alors même que pour l'instant, une grande partie des données des Français sont stockées à l'étranger. Les centres de données vont donc représenter une part de plus en plus importante de l'impact environnemental, notamment à cause de la hausse du volume de données. Hein, en plus, on est sur des photos et des vidéos maintenant avec de plus en plus grosses résolutions. Et la hausse du volume des données, accrochez-vous, c'est 20% de plus par an. Le rapport insiste aussi sur l'importante consommation en eau pour le refroidissement de ces data centers, une consommation qui pourrait s'avérer critique en période de forte chaleur et de stress hydrique, écrivent-ils. Le second rapport de l'ADEME, toujours l'Agence de la transition écologique, vient enfoncer le clou et il reste bien terre à terre puisqu'il rapporte les besoins en métaux qui sont créés par le secteur du numérique, je vous en parle souvent. Et l'agence pointe la forte opacité qui règne autour de la composition en métaux des équipements numériques. Et oui, secret industriel oblige. Sur les 25 métaux qui sont utilisés dans la fabrication des équipements, la Chine est le premier producteur pour 15 d'entre eux. Et elle est en situation de quasi-monopole pour l'extraction des 10 métaux du périmètre d'étude. Ainsi, pour la moitié des métaux qui sont étudiés, la présente étude montre qu'il n'existe pas de filière de recyclage à échelle industrielle, ni en France, ni dans l'Union européenne.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Après plus de 3 semaines d'inondation, le Sénégal compte 56 000 déplacés. C'est un bilan officiel qui vient d'être cité par Le Monde. Et les dégâts se concentrent sur une bande de terre longue de centaines de kilomètres. On est sur la rive gauche du fleuve Sénégal, explique donc Le Monde dans un reportage auprès des sinistrés qui ont perdu leur maison et les terres qu'ils cultivaient. Une saison des moussons torrentielles. Tout le Sahel d'ailleurs a connu une saison des pluies particulièrement intense cette année. Les pluies diluviennes ont saturé les sols pendant plusieurs mois, ce qui a abouti fatalement à une montée des eaux exceptionnelle, dont les effets ont été décuplés par une urbanisation ne tenant pas compte des risques d'inondation. Et on fait un petit clin d'œil aux sinistrés d'Espagne. Le Sénégal n'est pas le seul pays touché, puisqu'au Tchad, la capitale N'Djamena a connu sa plus haute crue depuis 60 ans. Au Nigeria, c'est le barrage d'Alo qui a cédé sous les flots le 10 septembre dernier. Au mois de septembre, l'UNICEF comptabilisait ainsi déjà 4 millions de personnes qui sont affectées en Afrique de l'Ouest et centrale par ces pluies et ces inondations. Cet événement climatique exceptionnel a été dopé par le changement climatique. Il pourrait donc se reproduire de plus en plus fréquemment. En France et en Bretagne, plus précisément, une vingtaine d'agriculteurs de la Confédération paysanne ont occupé l'agence du groupe d'assurance Groupama. On est à Morlaix dans le Finistère. Et les assurances privées, qui sont désormais chargées du risque climatique, sont donc dans le viseur de ces militants puisqu'elles refusent de couvrir certaines exploitations. La mobilisation a eu lieu ce mardi 5 novembre. On était donc à quelques centaines de mètres de la sous-préfecture, du commissariat et du fameux viaduc de Morlaix. Une vingtaine d'adhérents donc de la Confédération paysanne, le syndicat agricole, s'étaient donné rendez-vous dans le but d'occuper temporairement l'agence locale du groupe Groupama. Le but était de dénoncer le système assurantiel privé qui est inadapté face au dérèglement climatique, explique tout simplement Thomas Gibert. Hein. Et attendez, j'ai perdu ma dernière page. Où est-ce qu'elle est ? Voilà, c'est là. Thomas Gibert, pardon, secrétaire national justement de la Conf et maraîcher en Haute-Vienne. On tenait à être présent dans le coin ici aujourd'hui, un an après la tempête Ciaran, qui a fait beaucoup de dégâts dans le coin, rappelle-t-il. Les slogans étaient assez clairs. Assurance récolte, zéro pour les fruits et légumes. Groupama, Pacifica, État, 100% dégâts, 100% tracas face aux aléas. Donc un petit goût du slogan publicitaire détourné. Et enfin, assurance privée, assez d'insuffisance. Une quinzaine de minutes ont suffi aux militants pour recouvrir les murs, portes, fenêtres, tables et chaises de stickers jaunes à la typographie noire. Et ce petit coup de force médiatique a eu une victoire relative, puisqu'au bout d'une heure et 30 minutes, on leur a promis un rendez-vous par la direction qui a été appelée, un rendez-vous sous une quinzaine de jours. Si on vient donc aux causes de cette colère, bien c'est au 1er janvier 2023 qu'il faut remonter, date à laquelle un nouveau régime d'assurance a été proposé aux agriculteurs. Le précédent dispositif, c'était le régime des calamités agricoles. Il était à l'époque cofinancé par l'État et par la profession, et visait à assurer les agriculteurs en cas de dégâts sur l'exploitation à cause du climat. Ce n'était pas parfait, mais c'était moins pire que ce qui existe aujourd'hui, commente ainsi Thomas Gibert, puisque désormais les agriculteurs doivent se tourner vers des assurances privées s'ils sont victimes de dégâts liés au climat. Sauf, explique-t-il, que le maraîchage diversifié, l'arboriculture ou l'apiculture sont tout simplement exclus de ce régime d'assurance privée. Et il est difficile, par exemple, pour les maraîchers avec des cultures diversifiées, qui ne font pas de la monoculture, ou encore pour les apiculteurs d'être assurés. Quand je me suis installé il y a 3 ans, j'ai voulu m'assurer pour le multirisque auprès d'Alliance, et cela m'a été refusé, explique par exemple Martin, qui est maraîcher à Ganga, dans le sud du département. Alors, la compagnie d'assurance est-elle prête à modifier son fonctionnement ? Le directeur agricole chez Groupama, Gwenel Simon, assure face aux journalistes que son groupe essaierait de trouver une solution pour que tous les paysans et toutes les paysannes puissent être assurés face aux risques climatiques. Mais, explique Nicolas, un salarié de la Confédération Paysanne, il nous a fallu 2 ans pour obtenir la garantie d'avoir un rendez-vous. C'est dommage de devoir en arriver là, dit-il. Et bien justement, la Confédération Paysanne demande une indemnisation par mètre carré de culture, et non pas par type de culture, ce qui est visiblement plutôt le cas actuellement. Si on vient au cas de ce maraîcher dans le Finistère, là, Martin, ben, sa ferme a été fortement frappée, hein, comme des centaines d'autres, par la tempête Ciaran et ses rafales qui ont frôlé les 200 km. Et il explique avoir des serres qui se sont envolées, des gros dégâts matériels. Certains d'entre eux étaient assurés et d'autres pas, parce qu'il y a un manque de transparence de la part des assurances. Une première étape, en tout cas, est franchie pour le syndicat qui milite plus globalement pour la mise en place d'un fonds mutuel et solidaire face aux risques climatiques. Un fonds qui serait aussi abondé par les acteurs qu'il y a en aval, à savoir l'agroalimentaire et la grande distribution. Les assurances privées qui, par définition, agissent sur des aléas exceptionnels ne peuvent pas être une réponse face à l'impact du changement climatique sur l'agriculture, assure en tout cas le syndicat.
Je vous annonce la fin du monde! Ah, tout le monde va périr!
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra!
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
Et on termine ces nouvelles du monde avec une petite affaire de censure qui pourrait, ma foi, faire rire, mais pas forcément pour le principal intéressé. Il s'appelle Loïc et il est en lutte face à Monsieur Darmanin. Il passe en procès pour une chanson qui n'est même pas la sienne en plus, disons. Je risque 6 mois ferme ou 140 heures de tige de travail d'intérêt général et un stage de citoyenneté pour une chanson. Voilà, c'est un peu le résumé que fait Loïc de son affaire ubuesque qui l'oppose à l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. C'était ce 5 novembre qu'il était au tribunal entendu pour cette affaire. Donc c'est un jeune homme qui milite, il a notamment été mis en cause lors de la manifestation à Sainte-Soline. Il est de la région de Nancy et donc très ciblé par la répression depuis des années pour son engagement dans les luttes sociales ou écolo. Ce jour-là, donc en 2022, il relaye sur YouTube une chanson visant le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Suite à ça, il a été placé en garde à vue pour des menaces sur la personne de Gérald Darmanin. La chanson s'appelle « Les petites Darmanines » et il l'avait partagée sur sa page Facebook, il l'avait récupérée sur une page YouTube du site Lundi Matin. Ce militant de 28 ans est donc accusé de menaces, de crimes ou de délits contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, puisque c'est une chanson pamphlétaire, du style d'ailleurs de celle qu'on peut entendre des fois sur France Inter par exemple. Ça s'appelle « Les petites Darmanines », ça reprend l'air d'une comptine pour les enfants, et ça demande au ministre de fermer sa gueule et en appelant à dissoudre Darmanin tout en évoquant son cercueil. Ça, c'est pour la partie menace, puisque ça faisait référence à l'actualité liée aux dissolutions de l'époque et aussi aux affaires de viol et d'agressions sexuelles qui traînaient au basque de l'ancien ministre de l'Intérieur. Cette chanson appartient donc au genre de la satire, qui par définition procède par exagération ou provocation, mais elle mène aussi à des débats d'intérêt général et on ne peut plus sérieux, notamment à la dissolution du Bloc Lorrain, les comportements sexistes de M. Darmanin. Ça, c'est un parti de la plaidoyer de l'avocat de ce militant. C'était au mois de décembre 2023. Le jeune écologiste, d'ailleurs, était finalement relaxé par le tribunal de Nancy, qui estimait déjà que Loïc n'était pas l'auteur de la chanson et qu'il n'avait fait que la relayer sur un réseau social. Mais le procureur, visiblement, considérait cette affaire comme étant très grave et prioritaire. Il a vite fait appel pour que le militant passe donc une deuxième fois en procès. Donc, alors que j'avais été relaxé, l'État s'entête et fait appel, explique Loïc. Il était donc en audience ce mardi. Et cette fois-ci, dit-il, on essaye de me faire plier. En me donnant le choix, on lui propose un choix sur sa peine entre 6 mois ferme, d'un côté, ou 140 heures de travaux d'intérêt généraux et le fameux stage de citoyenneté. Et il explique qu'il refusera, que c'est raté donc pour lui, puisqu'il va refuser les travaux d'intérêt généraux, même avec le chantage des 6 mois ferme, pour me le faire accepter. En gros, il refuse de rentrer dans le rang et de reconnaître une faute de sa part. Et déjà, dit-il, il travaille déjà dans un EHPAD et dans le maraîchage, qui sont, dit-il, déjà des travaux d'intérêt généraux. Et surtout, conclut Loïc, j'estime ne pas avoir porté atteinte à l'intérêt général, contrairement, rajoute-t-il, à Gérald Darmanin. Le délibéré, lui, sera fixé le 14 janvier 2025. Et il conclut, la juge peut donc suivre ou non les réquisitions des 6 mois fermes, me relaxer comme le premier juge, ou me donner plus si elle a envie, jusqu'à 3 ans ferme max, il annonce le militant. Il est blasé par cet acharnement et est donc prêt visiblement à aller en prison pour cette affaire. S'il était condamné d'ailleurs, ça sera un précédent inquiétant dans le registre des fameuses incitations implicites à la violence. Ça pourrait faire jurisprudence pour une répression à venir de tout propos ou action militante. Plus généralement, ce procès s'inscrit dans le cadre des nombreuses procédures bâillons. Ces fameux procès qui visent souvent simplement à effrayer et à faire taire des oppositions, qui visent par exemple celles et ceux qui dénoncent la police, le gouvernement ou bien le colonialisme. Récemment, par exemple, le nouveau ministre de l'Intérieur avait saisi la justice contre un député insoumis qui avait déclaré que la police assassinait en Kanaki, donc faisait référence à l'actualité de la Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui est de Loïc, en attendant, il va devoir débourser malgré tout des frais d'avocat. Donc si vous en avez le cœur, un lien est disponible pour le soutenir. C'est sur Soutien Loïc sur la plateforme GoFundMe. Et il précise que s'il y a un surplus de dons, s'il a plus d'argent que ce que lui coûte l'avocat, il remettra évidemment l'argent restant à des associations. Quant à la fameuse chanson, la vidéo est toujours en ligne sur la page YouTube de lundi matin. Donc on n'a pas fait fermer le site non plus. Ça s'appelle Les Petites Darmanines. Et bon, je me dis que maintenant qu'il n'est plus Premier ministre et qu'on a encore le droit de faire ça, peut-être on peut s'en écouter un petit bout. Bon, attention, c'est pas, ça vole. Voilà, c'est une petite chanson satirique avec des insultes. Ne la partagez en tout cas, surtout pas.
Mais j'ai besoin des paroles.
Darmanin, 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 petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule. Gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta sale queue qu'on pourrait clouer sur ton cercueil. Ta sale gueule de laquelle on arracherait un œil. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule. Ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta sale loi qu'on cramera, tes sales mains qu'on coupera, dont on gardera les doigts, que des tailles on vendra. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta langue trop bien pendue au micro des télé, qu'on pourrait attraper et jeter à nos pieds. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais.
Voilà, un peu de colère à expulser dans cette chanson. Allez, la semaine prochaine, on s'occupe de Donald Trump, promis. D'ici là, portez-vous bien, et puis gardez la foi.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein.
Ouais, c'est escapade.
Bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.